présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. De lui, qui représente son contraire, c'est son père, ça. Sans quelques pas, François maintient bien son père. Son père lui dit, attends, j'ai envie de pisser. Il s'arrête de marcher, et dans la rue, comme ça, son père ouvre sa braguette et pisse. Pendant que son fils le maintient, François est dégoûté, a envie de vomir. Il ne peut pas voir cette chose dégoûtante. Cette chose qui lui a donné la vie. Cette chose qui lui donne envie de vomir. son père, s'est pissé sur son pantalon, se referme sa braguette à moitié et dit « Ah, ça soulage !» François a l'impression de vivre un cauchemar. Il continue à marcher en soutenant cette loque. Il le mène dans des rues étroites et de plus en plus lugubres, sales, aux immeubles délabrés, rues pavées, humides. Quelques passants, des loques bizarres. Le père demande « On va chez toi, fils. Tu veux bien dormir ?» François ne dit rien. Il sait que son père connaît son adresse. Et puis le ministre, ce salaud, peut la lui donner s'il ne s'en souvient pas, juste pour l'embêter. Que va-t-il faire? Que doit-il faire de ce poids? Il est fatigué, il en a marre. Il pousse la porte d'un vieil immeuble. Le père demande « Où on va ?» Le fils lui dit « Entre !» Il entre, ferme la porte. L'allée semble à une allée d'un immeuble abandonné avec des détritus, odeur d'urine et de pourriture. Le père demande « Quoi c'est ? » Le fils lui dit, viens. Il mène le père derrière les escaliers de pierre. Il ouvre une porte en bois. Ça donne aux escaliers qui mènent à la cave. Le père demande « Quoi que c'est ? » « Viens, on descend. » Les escaliers sont humides. Il y a des détritus. Ils sont usés. On y voit à peine. Le père dit, trop d'endroits, trop d'endroits. Arrivé en bois, c'est le couloir. Avec sur le sol de la terre. Porte des caves en bois ouvertes avec beaucoup d'encombrants. Le père demande on est au marché aux puces de bois en blanc. Le fils ne dit rien. Puis il voit une porte de cave fermée avec la clé qui est restée sur la serrure. Il y va, d'une main, il tourne la clé, la porte de la cave s'est ouverte. François entre avec son père dans la cave. Qu'est-ce que c'est ? Le fils est derrière. Le père regarde. François dépose son père. Le fait asseoir contre le mur. Pourquoi ? Attends. François réfléchit. Voit la chemise en loques de son père. Son père qui est devenu un pantin. Oui, un pantin. Il n'y a rien de plus. Alors, il lui enlève sa veste. Lui tire la chemise. Le père a le torse nu. Ne peut réagir, épuisé, le pauvre vieux. François ? Prend la chemise et la déchire en morceaux. Ah, il en fait des bandes. Puis, avec les bouts, il attache les mains et les pieds de son père, qui est dans les vapes. Abruti. Puis, il met un bandeau sur la bouche. Une fois que la chose est faite, il sort de la cave. Ferme la porte. Jette la clé dans une autre cave pleine. Et sort de l'allée. Il se dit qu'il a de fortes chances de ne plus entendre parler de lui. Il va mourir de faim. Lorsque l'immeuble va être démoli dans les décombres, on ne fera peut-être pas attention à son corps. Et même si on le voit, ce ne sera que le corps d'un pauvre SDF. Une fois dehors, il se dépêche de retrouver son monde à lui et quitter celui de son père, de la misère, de la médiocrité, de la laideur. Il lui a attaché. Lui, lui a donné la vie. Lui, lui a donné la mort. Il se dit échange de bons procédés. Et c'est comme ça que ça devrait se faire. Il lui a attaché les mains et les pieds. Ça, il ne pourra plus jamais. Qu'il a fait justice. Qu'il a payé sortir. C'est ce qu'il lui a fait lorsqu'il était jeune. Donc, aucun remords. Et puis, Monsieur Bébé lui va être un salaud ordinaire, mais extraordinaire. Les jours passent. Il n'a pas de nouvelles de son père et pense que la police ne l'a pas trouvé. Mais il se tient sous ses gardes et se dit que peut-être il faudra qu'il se fasse oublier quitter Paris. Il ne dit rien à Judith et fait comme s'il était heureux. Elle, elle ne sait rien. Ils se voient souvent, elle est heureuse. De temps en temps, elle lui demande des nouvelles de Serge. Elle lui dit simplement qu'il va bien. François n'ose pas aller trop loin, mais pour en savoir plus. Un mois après le crime de son père, il n'a toujours pas de nouvelles et reste toujours sur ses gardes. Une soirée qui va avec Judith. Judith est en grande discussion avec Madame Framblant et la Lapin. François est seul à côté du buffet. Je ne sais pas quoi faire ce soir. Viens à lui, un jeune homme grand, mince, cheveux jantins, visage agréable.
Je ne comprends rien.
Il y a François.
Ça ne m'étonne pas.
Bonsoir.
Tout le monde te connaît si bien. Pourtant, tu ne viens ici.
Vous êtes seul.
Tu es la coqueluche.
François lui dit.
Excusez-moi.
Non, mais mon ami est en grande discussion.
De Félix. Il va pouvoir recommencer.
Et je suis ici.
J'en suis navré pour vous, Félix.
Moi, je suis seul. D'ailleurs, je me demande pourquoi je suis venu dans cette soirée.
Qu'est-ce qui se
passe? François lui dit. J'ai eu qu'à partir.
Non, je crois que tu me caches vraiment quelque chose.
Vous en allez?
Tu peux faire la version.
Je l'homme lui dit, c'est-à-dire comme je dois partir demain, je n'aime pas être seul. François lui dit, moi non plus. Je l'homme lui demande, cette soirée, ne vous ennuie pas trop? Si, un peu. Je l'homme lui dit, si nous sortions un peu, et où pourrions-nous aller? Je ne sais pas. Bien, allons sortir. Et ils sortent en douce. Une fois dehors, le jeune homme lui dit, marchons, ça nous fera du bien. Ils se mettent à marcher. Je m'appelle Jean-Édouard, et vous? Moi, François. Bon nom? François demande, nous allons où? Le jeune homme lui dit, si vous voulez chez moi, nous serons plus tranquilles. Je vous trouve très élégant, et bien de votre personne. Merci. On voit que vous avez les moyens. François ne dit rien. Il se demande où il veut en venir. Il se dit qu'il n'aurait peut-être pas dû accepter de marcher avec lui. Il lui demande, c'est loin chez vous? Non. Vous êtes pressé? Non. Nous allons arriver. Il le mène à la porte d'un grand immeuble cossu, appuyé à l'interphone. Oui, vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? La porte s'ouvre. Ils entrent. C'est une allée à grand standing. L'homme le fait entrer dans l'ascenseur. Il met en route l'ascenseur. Il est tout près de François. Après un moment, il appuie sur un bouton d'ascenseur qui s'arrête. François demande, qu'est-ce que vous faites? Le jeune homme lui dit « Je sais qui vous êtes et d'où vous venez. Votre père est venu vous voir à Paris. Il a disparu. Ses amis sont inquiets. Où est votre père ?» François lui dit « Je n'en sais rien. J'ai pas revu depuis mon enfance. Allons, où est-il ?» Paris est grand, laissez-moi. Je lui dis, attention, on vous espionne. Et des gens. Des gens seraient prévenus de plus voir votre père. Certaines personnes seraient surpris de voir dans quel milieu vous venez. Le jeune homme sort un couteau de sa poche de pantalon, un couteau à cran d'arrêt. Il passe sa lame sur le visage de François et lui dit « Ce serait dommage de défigurer ce beau visage qui a en plus ton grand pain. Que préfères-tu? Ta vitrine, c'est-à-dire ton visage, ton outil de travail qui se trouve entre tes jambes. » Le jeune homme lui passe la lampe sur son visage. François en a des sueurs froides. Je lui dis, pour le moment, tu nous aides malgré toi en te mêlant à ces profiteurs et faiseurs de misère. Amuse-toi avec eux. Mais attention, je dis bien pour le moment, parce que nous risquons un jour et d'en avoir assez de te voir faire le pitre avec eux. Et puis même eux en auront assez. Et un accident peut venir et on peut aider à t'éliminer. Il remet l'ascenseur à route. Il s'arrête à un étage. Avant de sortir, le jeune homme lui dit « Attention à toi. » On se retrouvera. Et puis, tu vois, nous aussi, on s'est introduits dans leur monde, comme toi, pour te surveiller. Passe le bonjour à ton père. Peut-être qu'il est mort. Peut-être qu'il est vivant. Il quitte l'ascenseur. François, en sueur, appuie sur le rez-de-chaussée. Il quitte l'immeuble. Il décide, c'est de quitter Paris sans rien dire à personne. Le lendemain, il fait ses bagages. Et puis, il fait les magasins pour acheter des vêtements de luxe, valise chez les grands couturiers. Il paye tout avec sa carte. Il a assez d'argent. Il a de l'argent des bijoux. Et puis, Judith lui a payé tous ses frais. une fois qu'il a acheté ses vêtements, ses bagages, il fait ses valises, que ses valises sont prêtes. Il quitte l'hôtel sans se faire voir. Prend un taxi pour aller déposer ses valises à la consigne de la gare de Lyon. Puis, il va au restaurant, dans un grand restaurant. Ensuite, il décide d'aller aux Champs-Élysées, dans les jardins du Champs-Élysées. Il fait doux et soleil. Il y a du monde, des enfants qui jouent, des femmes, des hommes qui marchent tranquillement. François fait le tour du jardin et là, il voit ce dont il a besoin. Il voit un jeune homme qui est à peu près de sa taille, blond, beau garçon, des traits peut-être un peu trop délicats, habillé d'un costume beige, est assis sur un banc seul. Et lui semble aussi chercher quelqu'un ou quelque chose. François s'assoit à côté de lui. Le jeune homme le regarde. François lui sourit et lui dit « Il fait beau ?» Le jeune lui dit « Oui. » Et il rit en disant « C'est un bon sujet de conversation, enfin de début de conversation. » François lui dit « Oui. On ne sait jamais comment faire. » Collier conversation avec quelqu'un. Je lui demande « Et pourquoi voulez-vous lier conversation ?» François ouvre les épaules et lui dit « Je ne sais pas comme ça. Ça aussi c'est bizarre. Il faut avoir un pourquoi pour lier conversation. » Je lui dis « J'ai parlé comme ça, mais moi ça ne vous aide pas que l'on lie conversation avec moi comme ça, pour rien. » Je trouve ça même très sympathique. François lui dit, c'est comme moi. Moi j'aime bien sortir le soir parce que les gens lient conversation plus facilement. C'est mieux et plus sympathique. Je lui dis, vous avez raison. Vous êtes de Paris? Oui. Et vous? Moi disons, oui mais j'habite un peu plus loin. Il se taise un moment, puis le jeune homme le regarde, sourit et lui dit « Des fois, c'est pas facile de dire ce que l'on aimerait. » François, qui sait ce que ça veut dire, lui dit « Attends, c'est idiot, surtout lorsque deux personnes désire la même chose, enfin. » Le jeune homme sourit avec un sourire coquin. François lui dit « Je m'appelle François. » L'autre lui dit « Moi, c'est Christian. » François fait Et qu'est-ce que fait Christian? Il lui dit pas grand-chose. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Je suis un cousin éloigné. Mes cousins, tout de même, des francs blancs. On s'en fait. Oui, mais je ne les fréquente pas beaucoup. Gilbert, j'aime bien le voir, mais toujours avec son ami Julien et sa copine. Enfin, il a sympathisé un peu, mais il a choisi son ami, et c'est Julien. Et pas moi. Absolument. Et pas d'amis. Mais enfin, pas de vrais amis pour le moment. Au bout d'un moment, François lui dit, je suis un peu fatigué. Je dois prendre mon train dans 3 heures et j'ai pas de chambre pour me reposer un peu. L'homme lui dit, écoutez, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi et après, je vous emmènerai à la gare. François lui dit, bien, je veux bien. Et il met la main sur la main du jeune homme. Merci. Christian se lève, venez. Et il suit Christian qui le mène à sa voiture. Et il le fait entrer dans sa voiture. Et la met en route. François demande, nous allons où? À Bourg-la-Reine. J'ai une maison là-bas. Et ils y vont. Arrive. La maison est une belle maison toute blanche au milieu d'un parc plein d'arbres. Il va arrêter la voiture devant l'entrée de la maison. Sorte de voiture. Voilà, c'est ici. François lui fait. C'est très joli. Oui. Et ils vont rentrer dans la maison. C'est clair, c'est une maison du 19e siècle, toute blanche, les meubles sont Louis XV. Il dit à François, allons au salon. Et il le mène au premier étage. Il monte des escaliers de pierre avec une rampe très belle en fer forgé. Au premier étage, il ouvre une porte à double battant, le fait entrer dans le salon. Grande pièce, très grande, toute blanche, avec des meubles Louis XV. Il y a une cheminée de marbre, une porte-fenêtre très grande qui donne à un balcon en demi-cercle, un clavecin, des vases, des tableaux du 18e d'époque comme les meubles. Le sol, c'est du parquet à la française. C'est très beau et classe. D'ailleurs, comme vous avez pu vous en rendre compte, dans mes histoires, il y a souvent de très beaux décors. Très classe et luxueux, de bon goût. Je peux me permettre parce que ce n'est pas moi qui les paye. Envoyez-moi les photographies de chez vous pour voir si c'est mieux. Remarquez, faire un décor dans mes histoires d'allées lugubres, cela coûte aussi cher. Là aussi, vous pouvez m'envoyer des photos de lieux lugubres. Christian, le fait asseoir dans un fauteuil en face d'une table basse et lui demande « J'irai boire quelque chose ?» François lui dit « Oui, un jus de tomate. Merci. Bois moi aussi. » Et il s'éloigne pour aller chercher la boisson. Puis revient. Pose tout sur la table basse et se prépare à faire le service. Il lui demande « Voulez-vous une boisson avec du sel ?» François lui dit « Un peu de sel. » Eh bien, moi aussi. Et il fait le service. Tenez. Merci. Quand il a fini de faire le service, il s'assoit en face de François. Bois en silence. Puis François lui demande « Vous vivez seul ici ?»« Oui, mes parents sont partis en Afrique. Ils ont vécu pendant des années là-bas et ils ont voulu y retourner. Mon père travaillait là-bas. Il était haut fonctionnaire, disons, ambassadeur de ces pays. Je les plains. Moi, je n'aime pas ce pays. J'ai vécu mes premières années là-bas. J'avais une nourrice noire. C'était elle qui s'occupait de moi. Et elle buvait mes biberons et mettait mon chapeau. J'ai aussi trois frères qui sont mariés. Mon dernier frère, c'est une vraie poupée, délicieuse de beauté. François lui demande, vous n'avez cherché... jamais cherché à vous marier ? Christian lui dit « Si, peut-être. Mes parents ont un chalet à Courchevel et là-bas, j'ai connu une jeune fille. Elle était simple, mais étrange. On ne savait pas vraiment si elle était riche, d'où elle venait. Alors, j'ai arrêté de la voir. » François lui demande « Et depuis, vous n'avez pas cherché à vous marier ?» Il lui répond, pas vraiment. Et que faites-vous? J'ai fait des études à l'école des mines. Ma famille est très riche. Je travaille au ministère du développement. En réalité, je ne fais rien. Le ministère me garde parce qu'ils ont besoin des francs blancs. François s'étire et lui dit, vous montrez-vous de belles maisons? Oui. Ils se lèvent tous les deux et Christian va lui montrer sa belle maison. Ils sortent du salon. François lui caresse le dos, met sa main à sa taille. Pour voir un tableau, il pose sa tête sur son épaule. Christian lui montre le grenier. François lui dit, c'est plein d'araignées. Montre-moi la chaudière. Et il va lui montrer la chaudière. François lui dit, vous direz une chaudière de bateau. En se sortant de la chaudière, François lui donne un baiser sur la joue et lui dit « Je suis bien ». Criant, Christian se sent tout troublé par ses gestes et ses baisers. François demande « La chaudière marche à quoi ?» Pour bois, pour des économies d'énergie, mais elle peut tout brûler, peut tout y mettre dedans. François sourit et lui dit « Sauf le désir. » Ils sortent du sous-sol. François bâille et dit « Je sommeille. Je suis fatigué. Il est temps, c'est que je dorme un peu. Vous montrez ma chambre ?» Christian lui dit « Oui, bien sûr. » François se plaque contre lui en marchant et lui dit « Je suis épuisé. » Il met sa tête sur son épaule et lui dit « J'aime lorsqu'on s'occupe de moi. » Christian est tout excité. Au deuxième étage, il ouvre une porte. C'est une belle chambre Louis XV. Avec un lit à deux places. Christian lui demande « Ça vous convient ?»«
Oui, merci. Mais il y a une chose, c'est que je n'aime pas dormir dans un grand lit seul. Vous voulez pas coucher près de moi ?»
Christian lui dit
« Oui. »
François lui dit
« Je vais coucher sous les draps. Nous déshabillons. »
Christian, ému, commence à se déshabiller, François aussi.
Il lui dit, nous nous mettons nus, hein.
François ne dit rien.
Qu'ils sont nus, Christian est très ému. Il ose à peine le regarder. François lui dit « Allongez-vous d'abord. »
Christian ouvre le lit et s'allonge.
François lui dit ne bougez pas et fermez les yeux.
Christian ferme les yeux.
François, d'un bond, se lève et se plaque contre lui. Il prend les bras et les écarte. Met ses mains, ses pieds contre ses genoux.
Christian sent son corps si doux et chaud contre lui. Il se laisse aller.
Et tout d'un coup, il sent les mains de François qui entourent son cou et serrent. Il tourne les mains de son cou et il serre, serre. François serre très fort. Christian ne peut crier. La bouche ouverte, le souffle court.
Il essaie de se dégager en gesticulant. Mais il a contre lui son corps, ce corps qui l'empêche de bouger, puis ses mains qui l'empêchent de respirer. Il sent tout près de lui le visage de François, inexpressif. Il se dit, trop tard, qu'il n'aurait jamais dû faire entrer chez lui cet inconnu à tête d'ange, mais d'ange de l'enfer. Il se foque de plus en plus et de moins en moins. Il voit trouble. Son cou lui fait mal. Ça craque. Il voit blanc, rouge. Et un dernier sursaut, noir. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. François ? Serre encore un peu plus. Vois qu'il ne réagit pas. Il a le visage terreux. Grimaçant. François, en sueur, lâche le corps. La tête penche du côté droit. Il se redresse et se lève, essoufflé. Sort de la chambre, il est nu. Va dans le bureau de Christian. Prends sur le bureau un papier, un crayon. Il griffonne le papier. Retourne à la chambre. Là, il prend les empreintes du pouce en l'appuyant sur le papier. Puis, met le papier délicatement dans son portefeuille. Ensuite, il cherche dans la veste de Christian son portefeuille. Il lui prend sa carte. Et la met dans le sien, à côté du papier où il y a les empreintes. Une fois que c'est fait, il prend le corps, le met sur ses épaules, et sort de la chambre. Il va jusqu'à la chaudière. chaudière est une grande chaudière, parce que la maison est grande, et puis aussi que c'est une chaudière que l'on peut mettre de grands troncs d'arbres dans la chaudière. Alors, il ouvre la chaudière. Présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.